Chapitre 7e. C'était la première fois que les bras d'un homme tenaient Juliette prisonnière. Pour la première fois, ces bras qu'elle voyait depuis 20 ans sur des milliers d'hommes, séparés et occupés à des offices différents, pièges au repos, s'étaient soudainement fait signe et refermés en anneaux de chair autour d'elle. Le piège, après 20 ans, avait fonctionné. Elle se débattait en criant au secours. Mais l'homme était vigoureux. Tout ce qui sur Juliette n'est pas de matière pure avait déjà cédé. Le collier de fausses perles s'était répandu sur le parquet. Les lacets de faux cuir, l'épingle à chapeau en faux acier, la boucle d'oreille droite en strass, tout cela craquait. Juliette comprenait pourquoi les femmes que leur beauté ou leur rang expose trop au désir des hommes, se bardent de platine, se calfeutrent de diamants. Chaque perle qui éclatait sous le pied de l'adversaire dénonçait sa faiblesse, l'humiliait. Il ne restait d'intact sur elle qu'une médaille encore vierge, que la boucle d'oreille gauche, on ne sait pourquoi résistante, dotait celle-là d'une vertu généralement refusée aux strass. Et Juliette croyait déjà, alors qu'elle sentait seulement la part de relâchement dans son courage, de résignation dans sa colère, sentir la part de coton dans la haine, la part de soie artificielle dans la soie de ses vêtements, dernier rempart. Elle ne comprenait pas d'ailleurs exactement les gestes de cet homme, il a malaxé, lui semblait-il comme un créateur. Elle se dépitait de voir ses réflexes de jeune fille fonctionner à tort, du moins elle le croyait. Ses chevilles se croisant quand la bouche effleurait ses cheveux, sa main repoussant la tête quand les rotules la harcelaient. Qu'il devait la trouver stupide, à moins, ce qui n'était guère vraisemblable, que ce ne fût là la première de ses rencontres avec des femmes. Et voilà que les bas, Dieu pourtant savait le prix, on aurait pu pour la même somme avoir autrefois des jambières de bronze. Eux aussi cédaient. Juliette en était réduite à chercher ses armes dans ses visions de la famille, qui maintinrent le héros de Salamine agrippé au bateau perse, et les candidats au baccalauréat les plus désespérés sur leur version. Trop bousculée pour arriver à sa pensée, elle demandait secours à chacun des souvenirs qui lui arrivait du passé heureux, où elle n'était pas emprisonnée par cette étreinte. Et de ces souvenirs, aucun d'ailleurs ne cédait. Tous, y compris celui de la pêche aux écrevisses, y compris celui du matin même, celui du dernier café au lait dans l'hôtel de la rue Gay-Lussac, étaient de pur passé, et toutes les figures de l'album de famille défilèrent à son aide. L'homme, bien que fatigué, persévérait, encouragé, lui, par les futurs souvenirs, par la future mémoire de cette charmante lutte, de cette innocence, des pleurs qui allaient suivre. Avouons-le d'ailleurs, cette aventure, Juliette l'avait bien cherchée, car c'est en plein opéra, à l'étage des comparses, dans la chambre rembourrée où les figurantes et chanteuses viennent s'exercer à pousser les cris de terreur et d'angoisse que le combat se livrait. Juliette y avait succédé à 3 filles du Rhin, qui avaient succédé elles-mêmes aux protestants des Huguenots. Le personnel venait d'entendre tous les cris qui se peuvent pousser dans l'eau et dans le feu, et ne songeait pas plus à répondre aux appels de Juliette qu'à se précipiter tout à l'heure sur la scène au secours de Siegfried de Marcel. L'homme savait tout cela, et pour entretenir l'illusion, d'une belle voix rauque criait de temps en temps « À la mort, à l'aide !» Le cri au feu étant seul interdit par les règlements, ce qui laissait croire à Juliette qu'elle l'avait blessé et ralentissait sa défense. Ou bien il criait « Vive Boucher !» et le régisseur, soupçonneux qui s'était approché, s'éloignait rassuré en criant « Vive Voirolles !» Un machiniste dans le lointain répondait « Vive de Thomas !» Et le sanglot de Juliette se répercutait ainsi d'échos de plus en plus bruyants d'officielles jubilations. Les objets dans lesquels Juliette avait espéré un moment, ce revolver, ce sabre sur cette table, la trahissaient, étaient de bois, car la chambre servait de magasin d'accessoires. Elle en menaçait en vain son agresseur, se demandant avec angoisse si la faiblesse de ses armes n'allait pas laisser croire l'homme à la fausseté de sa défense. Aussi, parfois, d'une main pour une seconde libérée, Juliette parvenait péniblement à ouvrir un robinet à gaz, un robinet à eau. L'homme, d'une main prisonnière, les refermait avec aisance. L'homme parlait. « C'est une lutte entre deux éléments », avait-il déclaré dès le début du combat pour diminuer sa responsabilité quand elle l'avait pincé. « C'est l'homme contre la femme », avait-il rugi quand elle l'avait mordu. « C'est la Parisienne contre l'étranger », avait-il pu balbutier quand elle avait jeté sur son visage et dans sa bouche les poudres de couleur étalées sur la table. Mais de lutte rituelle, de non-sentique qu'elle était au début, à mesure que Juliette injuriait ce pouce écrasé qu'il avait, qu'elle contrefaisait son accent, qu'elle cassait ses lunettes, qu'elle criait avoir eu une toute autre idée des petits Prussiens, ses compatriotes, la lutte entre eux était vraiment devenue personnelle. Si bien que maintenant, c'était Juliette de Laval contre Boris Selmanov et Egopers contre Kiev. Car l'homme l'insultait aussi, en décrivant à haute voix ses charmes, ou plutôt presque exclusivement ce qu'il appelait ses ourlets. L'ourlet de ses lèvres, l'ourlet de ses oreilles, toute une série de divins ourlets qui le rendaient plus fine par Dieu au regard des hommes et des petits Russiens. Et si elle détournait alors son visage rougissant, il bondissait et criait avoir découvert l'ourlet de chacun de ses cheveux. Il était 3 heures de l'après-midi. Ville enchantée qui s'anime autour d'un sacrifice, l'opéra s'animait. Par plus d'escaliers, de couloirs et de trappes qu'il n'en faut pour descendre aux vrais enfers, Orphée et Eurydice débouchaient pour la répétition sur la scène que bornait, aussi irrévocable, aussi vide d'espérance et d'air que de vraies montagnes, les décors de Guillaume Tell. Les deux amants affectaient de ne pas s'en apercevoir, mais le spectateur ne pouvait s'empêcher d'attendre que leurs plaintes immortelles revinssent de la Jungfrau en tyrolienne. Sur ce qu'ils appelaient le Styx, au-dessus du reflet de Chillon, flottait une barque à voile triangulaire. Caron avait hissé un pavillon à croix et pêchait la brème. Les ombres, sortant de leur chalet, au lieu d'asphodèles, s'offraient de vraies fleurs de neige rapporté de la veille à Mademoiselle Bélia. L'étoile, par son argent helvète, le chocolatier. Il avait neigé aux enfers. Les figurantes de Manon garnissaient le côté jardin. Les filles, fleurs de côté, courent. Car c'était la première fois que la patrie d'Orphée était chantée par un homme, et toutes voulaient entendre. Étaient rassemblées et mêlées sur le plateau les poussières les plus attrayantes dont l'humanité est poudrée sa gaieté ou son pathétique, les phares aussi les plus solides, et sur le tout, un orchestre, noir et sans mélange, s'obstinait à souffler des enfers. Les danseuses étaient mélancoliques. Il n'était jamais venu à leur pensée qu'Orphée dût être un homme, ni Isote, ni Coppelia. Elles eussent été moins surprises d'entendre les plaintes de leur mère sur les bonnes et le prix des linoléums clamés soudain par elle en voix de ténor. Il leur revenait l'idée que les hommes étaient tout d'un coup plus sensibles. Elles-mêmes se sentaient plus tendres, sentaient soudain dans leur gorge de danseuse un timbre d'éphèbe, et pensant à l'amour, à l'amour avec un grand A, rudoyaient leurs parents amants. La régie essayait de nouveaux décors par projection. Eurydice mourait après avoir épuisé toutes les teintes intermédiaires entre rougeole et scarlatine. Tout gorge de pigeons, Orphée sanglotait. Mais personne ne comprenait que cette résonance, cette tendresse, cette couleur changeante qu'avait aujourd'hui l'opéra, lui venait de ces deux belles pilules humaines qu'il avait absorbées et qui continuaient à lutter en son centre. Tout cela, Juliette l'avait bien cherché. Le soir, elle avait voulu réaliser le vœu consigné à la page 80 du carnet. Connaître un Russe, l'épouser, être abandonné de lui, le reprendre, l'abandonner. Elle ne croyait certes pas que l'exécution du premier paragraphe fût à elle seule aussi épouvantable. Mais les Russes sont comme la Russie. Toutes les fois où ils aperçoivent une âme large et agitée, ils se précipitent, comme la Russie, vers la direction où est signalée la mer, qu'elle soit tiède ou glacée. La folie thalassocratique avait jeté Boris à la poursuite de Juliette, depuis le jour où il l'avait rencontrée dans le restaurant russe de la rue Sainte-Geneviève. Juliette aimait ce restaurant. C'était le seul enclos en ce monde où les devoirs pratiques de la vie étaient ennoblis par le personnel humain et où la vie s'écoula telle qu'elle est présentée aux enfants en bas âge pour les y attirer. La soupe était trempée par des princesses, les verres lavés par des pages, les beefsteaks servis par des maréchaux. Parmi toutes les promesses faites par les grands-mères aux enfants rêveurs ou malades, une, du moins, la seule, était réalisée du fait de Lénine et Trotsky. Le pain était servi par les petits-neveux de Pouchkine. Le sel était offert par les petites filles d'Ivan le Terrible. Juliette était touchée de recevoir sa nourriture terrestre de beaux garçons et de belles filles descendues pour cet office de la poésie et même du pouvoir. Tous les soirs, modeste, en robe noire, elle montait jouir de sa royauté. Boris était au milieu de sa vie et au terme de sa fortune. Du moins, il en jugeait ainsi d'après le volume de sa chambre. Né dans la chambre verte du palais Selamlov, chambre toute rouge d'ailleurs, dénommée verte à cause du liseré vert des rideaux, liseré imperceptible à l'œil non prévenu, mais aussi éclatant pour les Selamlov que l'est pour un parrain, dans l'être qu'à tout pour qu'on l'appelle Jean, la raison de l'appeler Hippolyte. Chambre qui cubait 400 mètres, il était parvenu aujourd'hui, après l'atelier de Trebon Street et la chambre du Tocatlian, à une mansarde de l'hôtel Grillon, de volume juste intermédiaire entre celui de la chambre verte et celui du cercueil. Celle des femmes qu'il aimait depuis sa jeunesse, voyait ainsi le plafond se rapprocher irrévocablement de lui, comme dans un conte d'Edgar Poe, et avait peur. Boris tenait de son précepteur des ardeurs poétiques incroyables, qui lui avaient été inoculées dans toute leur véhémence, car le précepteur était vierge, et il lui restait de cette éducation un langage saturnien auquel les femmes résistaient peu, car il semblait les atteindre aux bornes de la réalité, ainsi que ces femmes arabes qui, la nuit, passent en dehors de la tente conjugale leurs jambes et leurs bustes à leur amant, la moitié fidèle de leur corps éclairé par l'œuf d'autruche, la moitié désirée par la lune. Les habits de Boris, avec la tête la plus lucide et la plus raisonnable, avec des désirs normaux de goûter et de couturier, lui abandonnait un corps pour une minute, changé d'astre de ciment. Boris était beau, d'une beauté régulière, mais les traits réguliers étaient rares en Russie, et il se croyait la barbe beauté du diable. Il était honnête, mais il se croyait sans scrupule. Comme il était le chef en jeu pacifique, en charade, au poker, de la bande de jeunes blancs qui avaient tué pas mal de tyrans juifs, ils s'imaginaient être leur chef en meurtre. Parfois, le soir, il bénissait Dieu qui lui avait accordé, à lui assassin, de ne jamais assassiner, à lui vandale, de ne jamais brûler de musée, et des actes qui pour d'autres sont anodins et banals, comme se trouver seul en wagon avec un Rothschild, ou seul enfermé avec un Rembrandt, nous procurait un sentiment de purification. Il était généreux, se croyait dépensier. Il était adroit, mais il croyait que l'adresse est ce que l'on appelle la tricherie. Toutes ces qualités, d'ailleurs, au lieu d'être ajustées, comme l'éducation des Selamlof l'exigeait, sur un axe mâle, tel qu'amour de la patrie ou dévotion à Paul Ier, ou conquête du Turkestan, l'était sur sa principale passion, celle des timbres-postes. L'élan, l'attendrissement que donne aux hommes la lecture d'une lettre attendue, c'était la vue seule du timbre sur l'enveloppe qui les donnait à Boris. Il ne relisait jamais une lettre, mais il regardait 20 fois le timbre. C'était pour lui l'étiquette d'origine sur ses paquets de nostalgie. Ces petits carrés arrachés au grand drapeau des timbres-postes, inépuisables comme la mer, ces lettres et ces chiffres ineffaçables comme des tatouages, mais gravés sur des lamas, des condors, des ours, il les aimait, et c'était presque par un baiser qu'il les collait sur ses propres lettres. Leur teinte si spéciale selon l'année, le climat, le degré de révolution, était pour lui plus clair que des mots de passe. Il connaissait tous les timbres, tous les mots de passe de l'univers, ce qui avait permis en 1870 aux veuves du Paraguay, privées d'hommes, d'appeler au secours de la race les cousins et frères immigrés, les mots de passe entre l'île Maurice et le monde en 1847, entre le Saint-Siège et l'Italie vers 1864. Il comprenait tous ces appels des pays soudain compromis dans une fortune ou dans une guerre, quand apparaissent sur les timbres, sur les vues de ville ou sur les blasons, comme Manet, Tessel, Farès, apparus, les surcharges. La vue des surcharges lui serrait le cœur, car si elles annoncent quelquefois un état naissant, si elles sont le premier souffle de la Lituanie ou de la Tchécoslovaquie sur le visage des empereurs déchus, si parfois, venant du centre de l'Afrique ou de l'Asie, elles indiquent un raid audacieux, une casbah conquise, il savait par expérience qu'elles annoncent surtout la révolution, la débâcle, et que leurs chiffres, par leur multiplication même, indique que l'or s'épuise, que le courage fuit, et monte comme le plus sûr thermomètre de la nation malade. Il lui suffisait de feuilleter sa collection pour éprouver les sentiments qu'il faut d'habitude Balzac ou Dostoïevski pour aiguiser en nous. Le sentiment du gaspillage, il l'éprouvait à son comble, quand, sur une enveloppe vieille de 15 ans, il s'apercevait que l'expéditeur avait collé un timbre d'un centavo ou d'un copec trop cher. Le sentiment de la tyrannie, quand sur les lettres écrites par Vassia Durov de Gibraltar, au lieu du timbre espagnol, il voyait le timbre anglais. Son imagination poétique qui se nourrissait quand sa collection. Il possédait les 10 premiers timbres de la Réunion, encore neufs. Et c'était à ses yeux de quoi, pour la petite fille de Virginie, écrire 10 fois aux descendants de Paul. Un timbre suffisait à lui donner l'élan que donnent à d'autres un accès de tendresse, un air nouveau, un chien perdu. C'était le jour du timbre de la Guyane hollandaise, qu'il avait forcé sa cousine affamée à accepter ses 10 dernières émeraudes. Le soir du premier timbre par avion, qu'il avait dans son enthousiasme attaqué les bolcheviks au sud de Sébastopol et sauvé 3 équipages encore à terre. C'était parce qu'il songeait dans ce moment au vermillon terne, au premier timbre de 1 franc français, à cette tête de femme, un nez grec, un manteau américain, au cou de guillotiné avec du maïs entremêlé dans ses tresses, qui personnifia la France de 1849 aux yeux du monde qu'il laissait maintenant Juliette l'attirait, il le voyait bien, vers un guéridon, chargé de vrais poignards. C'était parce qu'il pensa soudain, par analogie, au premier timbre russe, aux 10 copecs bruns et bleus, avec ses petits corps de chasse qu'on y introduisit au-dessous du double aigle l'année de la naissance de son père, ces foudres qu'on passa dans les corps l'année de sa propre naissance, ces hameçons qu'on ajouta aux foudres l'année où Vassia mourut, qu'il laissa à Juliette choisir le poignard tcherkesse, bien que sa connaissance des peuples de l'Asie y fit prévoir que c'était le mieux aiguisé. Et ce fut parce qu'il revit l'aigle double, blason de son empereur, cet aigle double qu'on ne trouve plus dans le monde que sur le pont Alexandre III, devant lequel il s'arrangeait pour passer au moins une fois la semaine et tous les jours anniversaires de sa famille et du tsar, parce qu'il le revit sur 14 copecs bleus et carmin, sur le timbre heureux avec lequel il avait scellé ses toutes premières lettres quand il avait écrit à son père à Wiesbaden sa première lettre française, à sa tante à Nice sa première lettre italienne, à Miss Chapel Johnson à Vladikaukas sa première lettre anglaise, le plus commun de tous les timbres, coté un sou au plus dans le catalogue à cause des malheurs de la Russie, le plus précieux de tous, que les larmes lui vinrent aux yeux, et enivré de souvenirs de tous ses débuts à travers les différents langages, à travers les différents sentiments, sous l'estampille de cet oiseau pourtant si peu destiné à porter les armes et à devenir symbole de tendresse, il laissa Juliette dégainer. Mais comment avait-il attiré Juliette en ce repère? Boris, à la vue de Juliette, en était devenu amoureux. Or, les amours de Boris, si elles duraient moins que chez d'autres, les passades, avaient chaque fois toutes les caractéristiques d'un amour surhumain. Dès le soir de leur rencontre, il forçait Juliette à accepter la seule photographie qu'il eut de sa nourrice, qu'on avait eu tellement de peine à faire poser. Son père Dimitri la croyait d'origine musulmane. Il éprouvait un désir furieux d'alimenter Juliette lui-même, de lui donner à boire, à manger. Il lui confiait le dernier souvenir qu'il eut de sa mère dans ce grand pré où elle était venue le voir jouer et où la nourrice avait refusé de faire lever à coups de pioche la vache brette. L'oncle Paul la disait d'origine hindoue. D'autre part, Boris ne renonçait jamais à un projet. Il avait acheté à l'âge de 20 ans et encore récemment à Paris des jouets qu'il avait tout petit désirés en vain. Tout ce que touchait son désir restait pour toute sa vie marqué d'un signe. Il avait obtenu à 40 ans l'amour de femme qu'il avait aimé encore adolescent. Parfois, à Noël, il avait le sentiment de n'avoir pas perdu son harnais. Or, ce n'était pas à cause de ses succès, de ses aventures, de ses travaux de la nuit même, mais parce qu'il avait enfin découvert le truc de son précepteur pour se libérer des ficelles quadruples passées autour des pouces et des poignets. La femme qui lui résistait, il ne la poursuivait pas, mais il l'observait inconsciemment, de façon si précise, qu'en 6 mois il arrivait à savoir l'heure de ses repas, de ses bains, de son thé, et la laisser courir les balmusettes ou les ambassades avec la sécurité du lion qui connaît les heures où la gazelle va au guet. En bon chasseur, il s'identifiait tellement à elle qu'au bout de quelques mois, elle le retrouvait, développé dans son sens, avec la même ouïe, la même vue, friand des mêmes gâteaux, presque analogue à elle, vêtu de ses couleurs, et souvent l'aimait. Devant l'honnêteté de Juliette, Boris avait donc rangé, sans ennui, le désir immédiat qu'il avait d'elle parmi les désirs de longue haleine étendus dans son cœur, comme dans une cave. Et d'ailleurs, c'était une bonne année de désir, puisque depuis janvier seulement, il y avait, étendu là, bien au frais, un désir de crime, un désir d'être grand-père, et le désir de posséder le 25 centimes raté du gouvernement de Bordeaux. Il laissa donc grandir en lui, presque accolé au désir d'avoir des petits-enfants, le désir de Juliette et il entreprit de la séduire. Boris séduisait les femmes non pas en déployant les côtés séduisants de son esprit, non pas en chantant ou en dansant devant elles, bien qu'il fût excellent dans les deux arts, mais en découvrant le point le plus faible du pont qui reliait leur vie courante au monde de leur imagination. Il est toujours dans la vie d'une femme un souvenir, une habitude, qui ne peut supporter qu'une charge infime d'émotions. Souvenirs ou habitudes, en général du degré le plus modeste, souvenirs d'un objet usuel, d'un animal familier, mais qui commandent, plus que les grands événements de la vie, sa sensibilité. Quand Boris avait appris le vin préféré de celle qu'il aimait, la gare de province fréquentée d'elle dans son enfance, le nom de son poney, le nom de son fournisseur de stylos avant son mariage, il se savait pleinement armé. Bien des femmes qui n'ont cédé à d'autres que devant le Mont Blanc ou le Vésuve ont cédé à Boris au seul nom d'une station de Sologne ou à la vue d'une photographie de petit cheval irlandais. C'est la méthode qu'un dieu intelligent eût utilisée, et non point son vain crédit, pour émouvoir une mortelle. Il étudia donc Juliette. Oh, elle était sans défiance, mais difficile à pénétrer. Provinciale, elle n'avait aucune de ses préférences des parisiennes, pour les fiacres à chevaux, la bande verte et les antiquités. Les déjeuners dans les bistrots la choquaient, loin de la laisser faible et pantelante. Les promenades aux environs de la place des Vosges la glaçaient, loin de lui brûler l'âme. La visite à Freya la rendit muette dans le taxi de retour, loin d'écarteler son âme aux quatre vents du sort. Boris insista sur les modes de locomotion avec lesquels il avait eu jusqu'ici le maximum de réussite, liés comme ils sont à toutes les opérations les plus graves du cœur, au départ, à l'absence, au retour. Il n'avait d'ailleurs pas tort, et le point faible de l'armure était bien par là. Mais ni l'avion qui lui fit prendre pour aller d'un point au même point à toute vitesse, pour aller du Bourget au Bourget à la vitesse de la terre, et d'où elle vit sept cathédrales accroupies, ni la diligence de Corbeil en Parisis, où il la conduisit un dimanche voir le tombeau d'un maréchal de Henri III, ni la Rolls-Roy du grand-duc Serge, qu'il déposa vers minuit devant les étangs de Ville-d'Avray, ni la promenade aux chênes de Robinson, lui sur un âne et elle sur un cheval, ne changèrent rien à la placidité de Juliette. Aucune de ces unions ne rendait que ce que fut le mariage de la vitesse avec le style gothique, de la lenteur avec la Renaissance, du luxe avec la lune sur l'eau, de la forêt avec l'amble d'une jument toute blanche. Il éprouva Juliette en automobile, mais le point faible de son cœur n'avait rien à voir avec les dos d'âne, les chaos, les passages à niveau, et même avec celui d'Achère, où la première barrière vous laisse passer jusqu'au second qui vous arrête, étreinte autour de votre automobile, des deux plus grandes voies ferrées de France, dont les automobilistes profitent généralement pour s'étreindre eux-mêmes et s'embrasser. Jamais ce léger mouvement qui incline vers vous la tête de votre compagne alors que tout son corps est déporté de vous par le virage. Jamais, en traversant une ville au crépuscule, quand la lumeur des becs de gaz fait surgir soudain sous vos yeux l'étude du notaire ou la statue de Chaplin, ce visage qui se détourne et ce corps qui vous cherche. Un jour enfin, il trouva ce qui amenait sur Juliette ce sourire si attendu, ce sourire né non du contentement, mais du relâchement soudain de toutes les forces qui maintiennent le sérieux sur le visage humain, le mélange pour son âme d'étonnant, l'opium qui détendait parmi ses muscles les muscles qui servent à résister aux attaques des amants. C'était la vue d'un enfant à bicyclette. C'était le souvenir de ce jour à Biarritz, où déjà contrariée par l'humidité de notre planète, elle avait vu passer devant la mer quatre jeunes garçons sur 4 bicyclettes de fillettes. Ils allaient de front à la vitesse d'un oncle ou d'un père au pas, les cheveux noirs collés à la gomme. Ces 4 bicyclettes neuves et égales supposaient 4 petites filles jumelles. La pensée s'engouffrait sans fin devant ce problème dans un labyrinthe de cousins, de demi-cousins, d'amis de cousines qui laissaient l'amant jouer sereine. Ces 4 petits espagnols, entourés de soleil, asséchaient pour Juliette sur leur passage la planète éponge. Ce qu'il y a de plus primitif comme vent d'ouest essayait en vain de distraire un poil à leur chevelure laquée. Ce qu'il y a de plus ancien en fait d'océan se cabrait et, vaincu, s'affalait comme une sole devant eux. À l'heure du bain, près du port vieux, elle avait trouvé les 4 bicyclettes étalées sur le sable, abandonnées par leur maître pour un autre élément. Elle avait attendu, et c'étaient les 4 petites espagnoles, à peine sorties de l'eau, mais déjà de tuiles séchées bilantes, qui avaient tout d'un coup surgi et disparu sur elle. Boris était fin. Dès qu'il avait découvert le véritable appât pour celle qu'il désirait, il savait le tendre admirablement, surtout l'ennoblir. Si Juliette avait aimé la combinaison du luxe et de la lune, il eût préparé avec le calendrier, avec l'aide même du météorologue de la Tour Saint-Jacques, qu'il fréquentait, comme il fréquentait à Paris tous ceux qui font le temps, le change, la mode, une promenade à minuit, sous des fourrures empruntées à des amis milliardaires, la lune à son plein, sous l'une de ses collines crayeuses, de Saint-Leu, d'Esserrand ou de Tourelvie. Quelle joie c'était pour lui de rapprocher peu à peu une femme insensible de la part de l'univers qui se trouvait mantée vis-à-vis d'elle. Montagnes, murs, plaines, sous l'inondation, grand vin, jusqu'au point où l'aimant attirait enfin irrésistiblement sa victime. Que de fois, pour celles qui ne sont émues que par le spectacle même de la passion, il avait placé sous le porche de Saint-Séverin un faux couple dont les faux et persévérants embrassements avaient provoqué dans un cœur blasé un élan neuf d'amour. De plus, il aimait le riche, il développait en plus brillant les souvenirs. Il montrait la lune quand son éclat nouveau. Il aimait les fleuves combles, les gazons rasés. Il montra donc à Juliette, le plus bel enfant de Paris, Nicolas Baliachine, sur la bicyclette à roues d'argent qui avait servi au Tsarevitch. Et quand le petit Baliachine, après 3 tours dans le jardin de la Rubinstein, enjamba sa machine et, accompagné de 2 jeunes lionceaux, essoufflés, vint tendre sa joue à Juliette, il n'eut qu'à demander pour obtenir à l'opéra ce rendez-vous, dont il est temps de raconter la fin. Pour l'amour donc du 10 centimes aux semeuses, du timbre qui avait donné valeur officielle vers 1908 à la première lettre écrite par cette jeune fille, Boris avait renoncé à elle. Elle serait seulement désormais sa cousine, sa sœur, sa fille. Il se pencha pour lui prodiguer des baisers fraternels. Il la couvrit d'une étreinte de famille. Et c'était à ce moment que Juliette choisit pour lui donner le coup de poignard à la place du cœur. Il porta la main à sa poitrine, puis à ses yeux, pour vite essuyer ses larmes et qu'on ne crût pas qu'il pleurait de souffrance. Et il eut soudain le visage plein de sang. Alors Juliette poussa un dernier cri d'appel. C'était le seul qui fut inutile. Elle était sauvée, mais tous l'entendirent. D'abord accoururent toutes les danseuses, en tête celle des poses plastiques plus habituées à courir. Puis, faisant à lui seul le même bruit sur le parquet qu'elles toutes, un ténor. Puis seul, essoufflé, car pour tous les autres la course était sport professionnel, un machiniste, et par le trou de la serrure, ils virent, pour la première fois dans leur vie, ce qu'on voit au cinéma chaque vendredi, une femme penchée sur un homme assassiné. Boris s'était détendu sur une chaise longue de rotin, lit de mort idéal pour l'été. Il n'osait toucher sa sœur fratricide de ses mains sanglantes, l'étreignait fraternellement de ses genoux. Et Juliette, pour la première fois en face d'un crime, se penchait, disposée, semble-t-il, à sucer la plaie comme une piqûre de serpent. La porte était maintenant secouée par une douzaine de bras nus, sans force, les bras d'êtres imaginaires, aux jambes robustes, mais aux biceps bien maigres. Coppelia, Sylvia, Vénus. Boris, qui se savait à peu près indemne, fit avec plaisir, quand la serrure eut cédé, se précipiter autour de lui, au lieu d'Erini, les jolies filles qui ont coutume d'apparaître, non point dans les heures de crime, mais autour des coups de banque heureux, des triomphes de l'exportation des soies, des victoires de la Dutch sur le Standard, ou des pokers d'as souvent répétés, ou des grands prix à Longchamp. Juliette, toujours enserrée par les jambes de Boris, statue jusqu'à la taille, hésitait à se retirer de cette étreinte, comme on hésita jadis à retirer l'épée de la blessure d'Épaminondas, dans la certitude qu'il en devait mourir. Et Boris souriait maintenant, l'étau de ses genoux, affectant de croire que c'était là désormais la position définitive que Juliette lui-même avait adoptée dans la vie. Juliette, exsangue et immobile, ressemblait aussi à une danseuse prise dans une eau soudaine congelée. Elle avait voulu se baigner dans la Russie et la vague qui la portait s'était changée soudain en Boris. Elle ne revenait pas de cette aventure mythologique. C'était bien au hasard qu'elle répondait à celle des danseuses qui conseillaient de faire une piqûre antitétanique à cause du cheval de la Valkyrie dont l'itinéraire empruntait ce couloir. Elle était prise pour une compatriote de Boris, et les danseuses lui parlaient avec cérémonie. « Que son sang est rouge, madame !»« Oh, c'est signe de santé !» disait-elle, sans penser à ses paroles. Elle était russe au possible. On eut peur en entendant Boris l'inviter à dîner. Une meurtrière a des devoirs envers l'assassiné. Elle accepta. Et c'est ce soir-là que Boris choisit pour convive, parmi ses amis, tous ceux dont il savait que pendant la guerre ou la révolution, ils avaient tué. Et ceux qui avaient entendu le souffle suprême d'une âme forcée hors de son corps, s'ils aspiraient l'air comme tout le monde, l'expiraient sans bruit. Chapitre 8e. L'été était venu, les vacances. Les abeilles avaient délaissé le seringa pour les jasmins qui s'ouvraient bien heureux, et les enfants, leurs professeurs pour leurs parents qui souhaitaient voir l'été partir, les vacances finir. L'air était limpide. Quand vous touchiez une branche, vous aviez la même impression qu'en touchant les aiguilles d'une montre soudain sans verre. Il était doux pour Juliette d'avancer les branches de ce saule, de regarder ce peuplier et de mettre les vermes à l'heure. Tous les désastres de la préciosité, mal qui consiste à traiter les objets comme des humains, les humains comme s'ils étaient dieux et vierges, et les dieux comme des chats ou des belettes, mal que provoque non pas la vie dans les bibliothèques, mais les relations personnelles avec les saisons, les petits animaux, un excessif panthéisme, et de la politesse envers la création, Juliette les entassait sous ses pas. Elle saluait les sources. Elle ajoutait avec son canif des fautes d'orthographe aux phrases amoureuses gravées depuis 30 ans dans les chaînes du parc. Elle ouvrait son ombrelle à l'ombre. Elle la fermait au soleil. Elle respirait avec le nez. Elle plaçait sa bouche ouverte au-dessus des fleurs. Arrivée la veille, lasse de tant d'âmes, moustaches et robes de chambre nouvelle, dans le même pré aux écrevisses où elle l'avait laissé, voilà un mois, elle cherchait Gérard. Gérard sans passé, Gérard sans mystère, Gérard dont elle avait appris à connaître les gestes et les manies sur le père et même le grand-père de Gérard. Gérard qui avait mangé sa première bouillie, dont elle savait la recette, dans une assiette gravée dont elle savait les initiales. Gérard qui avait bu tout le lait, l'alcool, toute l'eau de sa vie, dans des verres, petits verres ou gobelets, dont elle avait lavé chacun, roulé sur des voitures dont elle connaissait le cocher et le cheval par leurs ascendants, chassé avec des chiens dont elle était depuis 20 ans la marraine, Gérard, dont elle avait vu le regard dans les yeux de sa grand-mère, la tache blanche à l'ongle de l'index droit dans l'index gauche, de son grand-oncle, qui ne portait un signe, une breloque, une médaille dont elle ne sut l'origine, sur le teint duquel les rougeurs, les pâleurs, les jaunisses venaient d'un astre dont elle avait déjà vu les rayons se poser sur tous les ancêtres et cousins de Gérard. Gérard, en compagnie de qui et sur qui elle avait fait ses premières expériences de physique, dont elle connaissait la résistance à l'électricité, dont elle avait étudié le sang au microscope, dont elle avait mesuré aussi la résistance à la pitié quand il tuait des oiseaux, des taupes, dont elle savait quel poids il soulevait ou arrachait d'un bout de bras. Gérard, qui ne pouvait sauter en hauteur plus de 1,58 m, 6,22 m en longueur, et qui savait par cœur que le début de l'oraison d'Henriette d'Angleterre est la maison du berger. Comme si justement tout le connu s'était assemblé et disposé sur son fiancé. Ce que Juliette savait, ce qu'elle soupçonnait d'elle-même, était certes beaucoup plus vague. Elle ne se penchait qu'avec inquiétude sur son jeune passé. Elle y sentait des ombres qui plus tard deviendraient des lumières, des silences qui deviendraient des voix. La même buée voilait à son approche chacun de ses miroirs et chacun de ses souvenirs. Elle sentait l'inconnu travailler sur elle constamment, d'un travail qui ne cesserait qu'à sa dernière heure. Mais Gérard, oh, elle se rappelait le jour exact où une expression, devenue depuis favorite, était entrée dans son langage. Le premier jour, il avait employé les mots « tendre une inondation »,« ovationner le roi ». Elle savait les dates exactes des jours où, pendant sa typhoïde, sa grippe espagnole, il avait été le plus près de la mort, et le degré de température extrême où il était porté en ce bas monde. La seule période qui fut pour Juliette une énigme, c'était les 8 jours que Gérard avait passés à Zurich avec la mission Vidal pour l'enseignement technique. Tout ce que la dernière amie de Don Juan se plaît à éparpiller en soupçons sur la vie entière de son séducteur, sur l'Alhambra, sur l'Escurial, Juliette le concentrait sur ses 8 jours de Zurich, sur le Polytechniklom et sur le Brennstoffkunderseminar. Zurich, 8 de l'inconnu, 6 des mystères. L'inconnu que d'ailleurs elle cultivait, car elle se gardait de poser sur ses 8 jours la moindre question à Gérard. Elle attendait quelquefois des mois entiers qu'il lui vint de cet inconnu un éclair, une illumination, sous la forme d'une allusion à la poule d'eau que Gérard avait poursuivie à la nage dans le lac, ou de Ventura, qu'il avait entendu dans le Stadttheater, jouer l'invitation au voyage. Pièce dont chaque phrase, puisqu'il était au loin, l'invitait d'ailleurs à repartir vers Perse, vers Juliette, et à regagner son voyage au plus vite. Le jour où elle apprit d'un tiers que Zurich était la ville la plus austère d'Europe, elle en voulut à Gérard, à l'hypocrite Gérard, qui avait imposé à sa fiancée le nom d'un asile aussi vertueux pour symbole des dépravations. Cher Gérard, qui se refusait obstinément à lui avouer le prix des bas de soie en Suisse, mais qui tenait le braconnier dont elle aussi était l'élève, son cri pour appeler les cailles ou son geste pour retirer les balances. Elle se réjouissait à l'idée de voir soudain apparaître entre les arbres l'être qui promenait dans le monde ce qu'elle en connaissait le plus, couvert de couleurs qu'elle-même avait choisies et de sweaters qu'elle avait tricotés. Il n'était pas loin. Le vent roulait vers elle la première page de son journal, dont il déchirait toujours le titre pour essuyer son rasoir, et qu'elle reconnaissait partout à cet anonymat. Juliette avança, se dissimulant derrière les vergnes. Le vent apportait le sifflement de cette chanson transmise par les cousines d'Herlevoix. Il approchait, celui dont en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles, en ne parlant pas, Juliette pouvait partager et comprendre pleinement la vie. Soudain, elle s'arrêta et se cacha. Gérard, se sachant seul et loin de tout, avait pris un bain et était nu. Elle le voyait de dos. Il écartait d'un bras tendu deux jeunes arbres et, penché sur l'eau, surveillait une ablette. Elle sentait que ce n'était qu'une ablette à la patte à peine troublée des muscles. Une ligne séparant au poignet et au cou ce que Juliette connaissait de cet homme soudain nouveau, isolant la tête et les mains de teintes un peu plus sombres. Une truite passa, tous les muscles se tendirent. Puis Gérard s'allongea dans l'herbe. Une pensée passa, tout le dos soudain fut uni. Le soleil fut voilé par un nuage, reparut, et pour la première fois, Juliette voyait sur un corps entier ce jeu de la lumière et de l'ombre qu'elle avait tant provoqué à la pension sur sa main étendue pour expliquer la vie, la mort, le froid, la chaleur et s'offrir au champ de bataille à Hormus et à Ahriman. C'était son fiancé tout entier qu'elle voyait maintenant, soudain terne ou soudain transparent, à demi endormi sur cette couche où Hormus et Ahriman, c'était bien eux, tiraient chacun à soi successivement la couverture. Donnait tour à tour à une faible et tiède mort, puis à une bouillante et immobile vie. Il se leva d'un bond, se suspendit à un arbre, faisant de son corps à une branche connue la pensée que devaient faire d'eux-mêmes les Magdaléniens, soucieux de leur santé, de leur poids, et qui surveillaient leur régime. La branche se courbait. Juliette voyait ce que pèse sur un chêne, sur le roi des arbres, l'humain préféré d'elle. Il s'arrêtait, écartait ou élevait les bras, feignait pour faire jouer ses muscles, de tirer sur un sang d'eau dont les élastiques étaient fixés au fond de l'horizon, bien loin derrière Juliette, arrivait péniblement à l'étendre et lâchait tout. Il marchait. Pour éviter les épines, les chardons, les flaques, il allait sur la pointe du pied, il bondissait. Il avait avec la terre tous ces gestes de réserve et d'enjouement, toute cette souplesse qu'on a avec son premier flirt. Il sautait à pieds joints dans le ruisseau. S'il respectait la terre, il brutalisait l'eau, sa conquête habituelle. Il ne se retournait toujours pas. Juliette voyait toujours que le dos, les épaules, qu'il avait très larges, qu'un des plus grands coupons de peau humaine sur lequel n'avait pas été apposé d'organes ou de sens. Une sorte de bouclier à l'abri duquel se passaient les opérations humaines, qui consiste à rire, à penser, à dormir, aveugle et sourd comme un bouclier. Tout ce qu'il faut pour être surpris par derrière, par sa fiancée, ou par la mort la moins précautionneuse. Si bien que Juliette, à un moment, se sentit triste, comme les Japonais qui ont enlevé le voile de ce monstre femme, dont le visage ne contient ni bouche, ni yeux, ni oreilles, et est désert comme un œuf. Si Gérard avait soudain marché en reculons, à la vue de ce monstre aveugle, et lui crié. Enfin, il se tourna, et elle le vit de face. Il était musclé. Elle vit une sorte d'armure sur laquelle étaient vissées la tête et les mains, ses amis. Tout ce qui constitue une armure était là, avec des encoches et des harons dans la Louis XV, au point où le buste s'articule, avec des côtes bombées, des brassards à la romaine et aux hanches de belles volutes en style Renaissance. Un insecte l'effleura, toute l'armure frémit. Juliette ne fut pas fâchée de voir que l'homme a reçu pour armure ce qu'il y a de plus sensible aux blessures, au froid, au chatouillement. la peau et sa doublure de chair. Gérard, évidemment, avait l'habitude de se promener ainsi. Sa vie physique paraissait perfectionnée. Il ramassa une branche avec son orteil. Il grimpa un arbre sans l'étreindre des genoux. Il fit le saut périlleux, prêté provisoirement à ce corps en liberté. La tête et les mains elles-mêmes se donnaient elles aussi à cette ardeur primitive et inconnue que se transmettaient depuis des milliers d'années les ascendants de Gérard, au-dessous des vrais, des manches à crever, des péplums et des justes au corps. Il semblait à Juliette que c'était tous ces vêtements antiques et modernes que Gérard venait souvent de rejeter, ce corps traîné à travers les âges par les Gérardini et Géraldi, les Gérards, sous tant de soie ou de haillon, de pourpre ou de coton, et qui reparaissait soudain nu dans cet après-midi, s'entraînant pour lui-même ou quelque lointain successeur, les bras levés, écartés, croisés, à toutes les grandes opérations qu'on a demandées ou qu'on demandera aux hommes nus, à Abel, à Thésée, au Christ, à Saint-Sébastien. Juliette l'observait presque aussi pieusement qu'un mannequin chez un grand couturier. C'était le mannequin de tant de noblesse, de tant de lâcheté. Autour de lui, tous les animaux, les arbres, les rochers reprenaient cette vraie proportion de la nature à l'homme qui disparaît dès que l'homme a mis des talons. Tous ces rapports habilement contradictoires qu'homme et nature entretenaient entre eux aux époques de la création, de propriétaire à l'esclave, de nain à géant, d'esprit à matière, ressuscitaient. Tous les poèmes de Desbordes Valmore et de Millevoye reprenaient leur génie. Le protocole des êtres et des plantes était à nouveau en vigueur. Avoir Gérard nu, la vraie hiérarchie s'établissait dans le cœur de Juliette, entre les diverses essences et les divers oiseaux. Tout, à part Gérard, paraissait d'ailleurs si âgé, si périmé. Seul l'homme, ce soir, était jeune et sans histoire, sur cette planète pour antiquaire. Et ni les animaux, ni les plantes n'avaient ce truc trouvé par Gérard pour rendre soudain une vérité à leur rôle sur la Terre. Belle leçon aussi, donnée par un fiancé à sa fiancée pour délimiter dans le monde ce qu'était lui. Gérard surgissait hors de ses objets ou de ses parures, que Juliette risquait de confondre ou d'entraîner dans son affection avec lui-même. Dégagé de cet univers qui colle à l'homme ainsi que le papier gommé au clown, dégagé de l'immortalité des cravates, des breloques, dégagé de tous ces intermédiaires avec le couchant, le levant, que sont les couleurs des vêtements, échappé en pleine canicule à la sincère et froide nuit, somnambule du soleil et de midi, que le moindre cri fait choir de ce vertige physique, il était tout entier là, et de tout ce qu'elle voyait là de Gérard, rien n'était né avant lui, tout devait disparaître à sa mort. Juliette était émue de voir une vie humaine si nettement délimitée entre les limbes et les enfers. Elle fut prise de reconnaissance envers cet être qui s'arrachait à l'éternité pour elle, qui pour elle collait sur un corps inconnu cette tête et ses mains héritées de famille, qui s'était fait homme pour elle et qui se condamnait pour elle à mourir. Comme Psyché, punie comme elle, elle vit son fiancé pâlir, mourir et disparaître. Maintenant, il s'habillait. Il n'est pas sans charme de voir s'habiller les hommes. Celui-là sautait à pieds joie dans son pantalon, jetait en l'air sa veste, parvenait à enfiler les manches pendant qu'elles retombaient, lançait les deux chaussettes roulées vers le ciel et les rattrapait dans son chapeau. Puis, ainsi terminé, sa confession d'homme, à la façon du jongleur de Notre-Dame, il prit son fusil et disparut. Le soleil, à peu près immobile, disait l'heure par sa couleur à chaque minute changeante. Le ruisseau coulait, unissant avec un accent campagnard les bruits les plus distingués de jets d'eau, de sources, de débris hors de têtes de dauphins, de cascades de fontaines lumineuses, parfois des glouglous de gouffres. Ou bien il gémissait, lassé de sa pente éternelle, n'espérant plus dans ses interventions de Jéhovah ou de Moïse, qu'il avait une fois ramené à sa source par l'écluse de Bourg-Chaumel et de Creux-Duran. Juliette avait retiré ses souliers, ses bas, et les pieds dans l'eau, sur la piste même de l'Ancien Testament, remontait le ruisseau jusqu'à ce creux du rang où Gérard se baignait. C'était une piscine profonde et transparente, d'où montaient des bulles qu'escortait un veron. C'était une source presque glacée, jaillissant à même le cours d'eau, comme celle de Jouvence. C'était cette eau miraculeuse qui donne la jeunesse aux jeunes, la force aux forts, au bon la bonté. Juliette arracha ses vêtements et se préparait à plonger. Quand un coup de feu retentit tout près, annonçant Gérard, à peine eut-elle le temps de s'envelopper dans un manteau déposé sur la berge, le manteau écossais de haute laine commandé spécialement par Gérard pour son voyage de noces, que le chasseur, brandissant son fusil, se précipitait vers elle. « Gibier qu'on ne tue pas !»« N'approche pas, Gérard, ou je me jette à l'eau !» Il s'était arrêté net. Il la considérait tendrement de ses yeux si durs aux cailles et aux gélinottes. Sous ce soleil qui rend bien portant les futurs centenaires, plein d'espoir ceux qui seront heureux, il luisait, et il déchargeait machinalement son arme devant Juliette, comme tout bon chasseur le fait devant les obstacles trop hauts à franchir. « Oh, Juliette » criait-il, « mais d'où viens-tu »« N'approche pas, Gérard, ou je me jette à l'eau. Qu'as-tu fait pendant mon absence ? Tu m'avais juré de ne pas étreiner ton manteau sans moi. »« Mais tu es toujours avec moi, Juliette. D'ailleurs, je ne l'étraînais pas. Je le portais au Herlevoir. Ils veulent tous le voir. » Car ils ont su son arrivée par les foltrias. Prends garde, ne laisse pas traîner ainsi ses manches, le sable là est humide. C'est ainsi qu'ils s'amusaient à mettre le manteau écossais entre eux pour leur première rencontre, comme deux amoureux, méfiant d'eux-mêmes, un enfant. Il la contemplait, il la trouvait nouvelle. Certes, il reconnaissait sous le manteau un homme avisé, ce corps, la respiration de ce corps, ses frémissements. Mais le visage de Juliette avait changé. Ses pieds nus, qu'il avait si rarement pu voir, c'était bien eux. Mais il ne reconnaissait plus les mains. Tout ce que Juliette avait offert nu à Paris, aux archéologues, aux charmeurs défunts de serpents, aux poètes, aux exilés russes, en revenant avec un nouveau bial et un nouveau parfum. Ses yeux, surtout, demi-hommes au départ, semblaient devenus presbytes. Elle était à 2 mètres à peine, et Gérard avait l'impression d'être regardé de si loin. « Enfin, te voilà, Juliette, et quand nous marions-nous ? Je t'en supplie, ne l'accroche pas aux ronces, tu vois, je ne l'ai pas portée. » Quelques boutonnières sont encore cousues. Elle le savait, diable bien. Elle était obligée de le maintenir contre elle, comme un plaid. Mais pourquoi l'as-tu pris rayé, Gérard ? Tu savais pourtant que je préfère la robe des hommes et des animaux tachetés. Je t'aurais adoré en léopard. Je te détesterais en tigre. Elle n'approche pas. Comme tu as bonne mine, tu es superbe ce soir. Car elle était poussée, protégée par ce manteau de laine pure, à couvrir Gérard de louanges. D'abord, elle le couvrit des éloges réservés aux enfants. Il avait grandi. Il paraissait si sage. Que ses oreilles étaient rouges. Puis, des compliments réservés aux hommes. Ses sourcils s'étaient rejoints pendant son absence. L'arrêt laissé à droite était à gauche. Les lèvres ne se rejoignaient plus. Sa tête, en un mois, avait joué. Puis, de ce qu'on fait au vieillard, pas une ride à sa bouche, pas un seul cheveu blanc. Gérard laissait se promener sur lui la lanterne de l'âge et répondait à dessein par tout ce qu'on peut trouver de plus banal en fait d'aveux et d'amour. Elle était ravissante, sa robe lui allait. Mais la banalité au cœur de l'été, au cœur de la jeunesse, c'est juste le génie au cœur de la vieillesse et de l'hiver. Quels ongles bien vernis tu as, Gérard, mais dis-moi, où l'as-tu acheté? Il cacha ses mains derrière son dos. Ils furent tous deux face à face, sans mains et sans bras. Mais en Angleterre, Juliette, les experts prétendent qu'il supportera mieux la poussière que la pluie. Ce sera pour Naples. Quand le vent soufflera et nous ombragera avec les fumées du Vésuve. C'est un manteau excellent pour les fumées du Vésuve, pour les soufres de Sicile, contre la lave. Merci de l'aide, Juliette. As-tu revu le jeune archéologue? Depuis la visite que tu lui fis, je me surprends parfois par trois nids en ruine vus dans les arbres, par un squelette trouvé sous une gerbe à reconstituer pour un prédonné la république des oiseaux et des rats, telle qu'elle était voilà 3 ans. As-tu remis mes fleurs à Doras Almonaf? Elle devait être belle dans son fauteuil de rotin, poignardée par ce danseur amoureux. Caresse-le, tu verras, rien de plus soyeux. Car il essayait d'attirer au dehors ses bras nus. « Oh, Gérard, mon ami, que je suis aise de me marier. Quel beau voyage nous allons faire. Tu me défendras des chulos en Espagne, des ruffians à Venise, des faquins à Vérone. J'ai appris tous les noms qui désignent ce dont un jeune époux doit protéger sa femme. Tu me protégeras des tranvieri dans les tramways, des controllori dans les trains. Voici que je ne serai plus seul désormais dans la vie, à Naples en face des cameristi, à Rome en face des teppisti. Tu vois comme ces boutons sont mal cousus, n'approche pas. Tu ne peux le retrouver dans cette herbe. Non, ne plaisante pas, Juliette, m'aimes-tu? Mais comme tu sais peu de choses, Gérard, je ne croyais pas en partant pour Paris avoir un fiancé aussi ignorant. Tu ne sais pas que les Assyro-Chaldéens ne croient pas au péché originel. Où tu me l'as caché 20 ans. Tu ignores la date de l'avènement des Sapors, pour être même la date de sa chute. Où tu as voulu être le seul à le savoir de Perse. Tu ne sais pas que la mort compte à peine, et que tout l'intérêt de la vie, c'est le monologue intérieur. Où tu t'entêtes à croire à la mort plus forte que tout. Mais tu ignores qu'un chien à sainte va tous les matins et tous les soirs sonner l'angélus. Tu ignores que dans la langue des Guaranis, l'adjectif se place au cœur du nom, l'article au cœur de l'adjectif. Parle franchement, tout cela, le savais-tu? Sais-tu même le premier constructeur des pyramides? Bon, c'est Khéops en l'an 1300 avant Jésus-Christ. Elle ne plaisante pas, Juliette. M'aimes-tu? Il piétinait sur sa ligne comme un coureur à pied auquel on va donner le départ de sa vie. Juliette était plus émue d'avoir fait jaillir un éclat de science de ce beau chasseur de perdrix que l'ancêtre qui découvrit le feu en frappant des silex. Et comme tu m'as menti, Gérard, la litote, le douanier Rousseau, les dadas sont exactement le contraire de ce que tu prétendais, exactement. Et comme tu te moquais de moi quand j'ai voulu savoir la nourriture des grands hommes, j'ai vérifié. Il est faux que Stendhal se nourrissait de pilaf et Balzac de Vano. Comme tu m'as maltraité aussi dans la vie. Quand j'étais petite, tu me ramenais chaque soir avant 6 heures à la maison, malgré mes cris, car je voulais voir coucher le soleil. J'ai fait le calcul à Paris. Tu m'as privé de 700 ou 800 couchers de soleil. Étonne-toi un jour si tu as une femme On s'approche de la nuit, borné et insensible. Il n'était plus temps de plaisanter. Gérard avait les larmes aux yeux. Toute patience le quittait. Alors je compte jusqu'à trois, Juliette, une fois. M'aimes-tu? Je t'aime, mon petit Gérard. N'attends pas trois. Allez, viens m'embrasser. Serre-moi dans tes bras. Alors, plein de passion, délié magiquement, il se précipita vers elle, les bras ouverts. Mais déjà Juliette, comble d'affection, d'amitié et d'amour, avait plongé dans le creux du rang avec le manteau écossais.